Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour, dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais vous parler du 1er mai, puisqu'il arrive vite, ce 1er mai 2024. Et d'abord, peut-être de revenir sur ce qu'est le 1er mai, qui est souvent dénaturé. Alors, l'origine, eh bien, ça se trouve à Chicago en 1886, où les travailleurs en grève exigent la journée de 8 heures et ils vont être victimes d'une sanglante répression. C'est donc à partir de là, ce 1er mai 1886 à Chicago, que va être décidé par le mouvement ouvrier naissant d'en faire une journée de lutte et de solidarité internationale. Et puis en France, eh bien en France, le 1er mai aussi, mais 1891, donc peu de temps après en France, eh bien la troupe reçoit l'ordre de tirer sur les grévistes à Fourmies, qui réclament la journée de 8 heures également. Il y aura 9 morts, 35 blessés et beaucoup d'arrestations. On peut dire quelque part qu'il y a deux origines. Une plus ancienne et plus internationale, celle de Chicago, mais aussi ce 1er mai 1891 à Fourmies. Alors Pétain est ennuyé avec ce 1er mai quand il est au pouvoir pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il va chercher à le dénaturer, puisqu'il ne peut pas l'attaquer frontalement, il va le faire de deux façons. La première, eh bien, c'est déclarer le 1er mai férié, tout simplement, ce qui va dire que ça va d'office supprimer les mouvements de grève dans toutes les entreprises qui sont liées aux revendications de la période. Donc c'est un cadeau, mais un cadeau un peu empoisonné, puisqu'en fin de compte, il n'y aura plus de mouvements de grève par voie de conséquence ce 1er mai. Et d'autre part, il va transformer le motif du 1er mai en fête du travail, donc substituer la journée de lutte des travailleurs pour leurs revendications en fête du travail, et on retrouve là dans la fête du travail son triptyque à lui, travail, famille, patrie, donc deux façons de le dénaturer. C'est pour ça que parler de fête du travail le 1er mai, c'est faire référence à Pétain et c'est pas du tout faire référence aux revendications des travailleurs. Alors, il va faire aussi également autre chose, puisque jusqu'alors, la référence du 1er mai, eh ben, c'était pas le muguet, c'était l'églantine. L'églantine, une fleur rouge, donc qui était le symbole de ce 1er mai. Eh bien, lui, il va transformer les choses, il va transformer le rouge par le blanc, évidemment, avec ce brin de muguet qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, le brin de muguet, c'est Pétain. Et l'églantine rouge, c'est l'origine historique, donc depuis 1886, comme je l'ai dit. Alors le 1er mai, il est célébré dans tous les pays du monde, avec des revendications qui portent sur le travail, évidemment, sur les libertés, sur la paix, et sur tout ce que réclament les travailleurs. Donc on y associe toujours les libertés et la paix. Alors, est-ce qu'il y a de bonnes raisons en 2024 de manifester ce 1er mai ? C'est bien l'objet de ma chronique. Eh bien, je fais un tour rapide de la situation. D'abord sur l'emploi. Eh bien, sur l'emploi, les effets d'annonce de création d'emplois, celles-là, elles ne manquent pas, mais elles ne correspondent pas à grand-chose dans les faits. Je prendrai deux exemples, la décision récente de fermer l'une des plus grosses raffineries de France, Exxon à Gravenchon, qui va entraîner des milliers de suppressions d'emplois. Et si on prend un autre exemple, Air Liquide également, qui supprime nombre de ses filiales alors que ces entreprises, l'une comme l'autre, font des super profits. Alors on a entendu aussi ces jours-ci, par rapport aux fonctionnaires, cette volonté de s'attaquer à la garantie du maintien de l'emploi. Alors c'est de l'esbrouf, évidemment, puisque de toute façon, la garantie du maintien de l'emploi des fonctionnaires n'existe pas. Elle n'existe pas pour plusieurs raisons. et en particulier lorsqu'il y a une faute grave. Mais c'est présenté comme si, haro sur les fonctionnaires, c'est pas très récent cette affaire-là. Alors je vais parler aussi, puisqu'on parle d'emploi des chômeurs, eh bien on vient de découvrir au détour d'un article de presse que le Premier ministre confirme qu'il entend s'attaquer à nouveau, puisqu'il l'a fait plusieurs fois, en tout cas les gouvernements Macron l'ont fait plusieurs fois depuis 2017, à ce qu'il reste de l'assurance chômage. Vous savez maintenant que Pôle emploi n'existe plus, hein, c'est France Travail, et qu'au passage, on a modifié un certain nombre de règles, à la baisse, j'allais dire évidemment, puisqu'avec ce gouvernement et ses précédents, ça a toujours été dans ce sens-là. Et en particulier, il y a eu l'annonce de la suppression de l'allocation spécifique de solidarité. Donc voilà, pour ce qui concerne le chômage, le gouvernement menace donc de commettre de nouvelles baisses des droits des privés d'emploi. Nouveau raccourcissement de la durée d'indemnisation qui a déjà été raccourcie il y a peu de temps, notamment pour les seniors, extension et durcissement de la dégressivité déjà appliquée pour les cadres. Ça, c'est le contexte en ce qui concerne les privés d'emploi. J'en viens à la question des salaires. Eh bien, aucune mesure efficace. Il y a eu, bien sûr, de l'esbrouffe sur des mesurettes qui sont sans véritable effet, mais aucune mesure efficace n'a été prise face à l'inflation, que ce soit en modifiant le niveau du SMIC de façon conséquente, en utilisant l'échelle mobile des salaires. Je rappelle que cette échelle mobile des salaires, ça a été pratiqué en France et c'est toujours pratiqué dans certains pays comme la Belgique, par exemple, ou autre mesure qui aurait pu être également mise en œuvre, c'est celle du blocage des prix. Donc rien de révolutionnaire là-dedans, puisque ça s'est déjà pratiqué historiquement, mais pas ces dernières années, par rapport à l'inflation. Et en même temps, comme dirait l'autre, une proportion d'emplois précaires qui augmente considérablement dans notre pays, donc un appauvrissement des travailleurs. Pour ce qui est du monde agricole, eh bien un appauvrissement aussi de la grande majorité des exploitants, ceci est une réalité, je ne les oublie pas, même si il y aurait beaucoup de choses à dire sur leur syndicat majoritaire, mais néanmoins, il y a une réalité, il y a un appauvrissement de cette grande majorité des exploitants agricoles. Les super-profits, pour eux, ça, tout va bien. Hein. On n'a jamais fait quasiment autant de profits dans les grandes entreprises. Elles sont bien là et elles savent tirer leur parti de la crise. Alors j'en viens à la question de la protection sociale, toujours dans cette idée de savoir s'il y aurait ou pas motivation à se motiver et donc à participer aux manifestations du 1er mai. Eh bien sur cette question de la protection sociale, non seulement il y a une restriction constante et permanente de cette couverture sociale, mais sont créés un certain nombre de leurres, comme l'invention récente, qui a été proposée en tout cas, de la taxe appelée la taxe lapin, puisqu'il s'agirait d'une pénalité sur les prises de rendez-vous qui ne sont pas honorées par les patients. Alors c'est typiquement à l'heure, car d'ailleurs pratiquement on ne voit pas bien comment ça pourrait se mesurer entre les absences, entre guillemets, justifiées et les non justifiées. C'est typiquement à l'heure, car le véritable problème, ce n'est pas les lapins, ce ne sont pas les lapins, mais c'est le problème de la pénurie de personnel de santé, et en particulier, mais pas seulement, celle des généralistes. Et on a en France environ 6 millions de Français qui n'ont plus, du fait de cette pénurie, de généralistes. Donc le problème, il est là et il n'est pas ailleurs. Et là, encore une fois de plus, c'est de l'esbrouffe. Et pendant ce temps-là, des mesures qui s'en prennent à la couverture sociale sont mises en place, comme la franchise par boîte de médicaments qui passe de 50 centimes à 1 euro tranquillement. Et on nous balade avec une taxe lapin et les véritables mesures qui sont prises vont dans le sens de la régression sociale. Il ne faut pas oublier, bien évidemment, la question de la retraite, puisque même si le combat a été difficile et on ne peut pas dire qu'il ait été gagné dans le domaine, pour autant, le problème reste entier. Et quand on y regarde de près, aujourd'hui en France, la grande majorité des travailleurs, compte tenu de leur état de santé, ne peut pas aller jusqu'à 64 ans au boulot. Donc on voit bien les esbroufes là encore, puisqu'on nous recule l'âge officiel de la retraite, alors que dans la réalité, la majorité des travailleurs, de toute façon, ne peuvent pas aller à ces 64 ans. Et quand je dis la majorité, c'est la grande majorité. Alors le 1er mai, c'est aussi, je l'ai dit tout à l'heure, la question des libertés. Il y a beaucoup de choses à dire dans le domaine. Avec un nouveau projet de suppression des représentants du personnel au comité social d'entreprise, qu'on appelait avant le CE, dans les boîtes de moins de 250 salariés. Jusqu'alors, le seuil était de 50 salariés. Autant dire que dans les départements ruraux, je prends l'exemple du Tarn-et-Garonne, l'immense majorité des salariés et fonctionnaires, n'aurait plus de CSE. J'ai regardé les chiffres. Dans un département rural comme celui-ci, seuls 16% des travailleurs sont dans des boîtes, fonctionnaires compris, de plus de 250 travailleurs. Donc on voit que c'est un véritable coup bas qui est présenté. Mais même dans des département plus industriel comme celui de la Haute-Garonne, par exemple, la majorité des travailleurs bossent dans des boîtes de moins de 250, donc n'auraient plus de comité social d'entreprise. Alors, puisqu'on y est dans cette régression, il y a aussi eu ces jours-ci un nouveau projet qui est sorti, enfin, en tout cas une nouvelle demande de restriction du droit de grève, notamment dans les transports. Eh bien oui, c'est logique, ça va toujours dans le même sens. Et puis, sur le plan idéologique et juridique, on fait haro sur les contestataires, puisqu'à peu près n'importe qui aujourd'hui peut être qualifié de terroriste, ce qui est assez insupportable par rapport à ce qu'est véritablement le terrorisme. Et je pense, bien sûr, aux ces écolos un peu radicaux que, depuis quelque temps, on appelle éco-terroristes. Et maintenant, des militants syndicaux, ceux qui dénoncent les massacres en Palestine, qui sont assimilés également en les accusant officiellement d'apologie du terrorisme. Donc vous dénoncez un massacre, vous dénoncez un génocide, vous êtes accusé d'apologie du terrorisme s'il s'agit de la bande de Gaza. C'est absolument insupportable. Alors sur la question de la paix, puisque c'est un des grands thèmes du 1er mai, des 1er mai, puisque ça a toujours été le cas, on peut dire que les récents propos de Macron de « va-t'en guerre » sont une fuite en avant, puisque vous avez entendu qu'il propose finalement de monter d'un cran et qu'il n'exclut pas l'envoi de troupes en Ukraine. C'est une escalade qui a de quoi faire peur. Et pourquoi il fait ça? Il fait ça pour faire oublier sa politique intérieure. Voilà, c'est d'abord ce qu'il faut dire. Cela étant, cette escalade est véritablement là. On a aussi l'élargissement du conflit entre Israël et l'Iran, qui a de quoi inquiéter et qui participe, en ce qui concerne Israël, de cette même logique d'escalade pour faire passer quoi à l'arrière-plan? En ce qui les concerne, ce véritable génocide qui est en cours dans la bande de Gaza. Alors, il n'y a pas que le Proche-Orient, puisque en Asie, en particulier en mer de Chine, des tensions fortes sont en train de monter autour de l'île de Taïwan, qui est officiellement une partie de la Chine, il faut le rappeler. Alors pourquoi ? Eh bien parce que cette île de Taïwan est dans l'axe de l'un des plus importants trafics maritimes international. Et donc là, on est sur le plan de la géopolitique. Et peu importe le sort des Taïwanais, le véritable motif, c'est le trafic maritime international. Je voulais le rappeler. Néanmoins, ces tensions guerrières sont une réalité. Et je voulais citer, puisqu'on en parle peu dans la période, alors que c'est le cas depuis plus d'un demi-siècle maintenant, cette guerre économique, celle-là, mais qui fait néanmoins des morts, la guerre économique, autour de Cuba, avec ce blocus américain qui doit dater d'une soixantaine d'années et qui, de ce fait, produit des morts, du fait des mauvaises conditions de vie à Cuba, évidemment. J'allais dire évidemment, mais c'est pas toujours perçu comme tel et on en parle trop peu. Alors, il y a d'autres sources de tensions dans le monde et quand on réclame la paix, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire à géométrie variable. Il faut le faire dans tous les domaines. Globalement, ce qu'on peut dire en matière de tensions internationales sur notre planète, c'est que l'hypothèse d'une guerre mondiale n'est plus de la science-fiction et les tensions sont suffisamment importantes pour se mobiliser dans le domaine. On n'a jamais été dans une situation pareille de crise, si ce n'est peut-être à l'époque des missiles russes à Cuba, et donc ça remonte quand même à peu près un demi-siècle. Alors oui, les raisons ne manquent pas de se mobiliser ce 1er mai 2024, c'est là où je voulais en venir évidemment. Alors je ne peux pas citer toutes les manifestations dans la région, je vais seulement citer deux. Pour Toulouse, à Saint-Cyprien à 10h, c'est le lieu de rassemblement. Et pour le Tarn-et-Garonne, à Montauban, devant la Maison du Peuple à 10h. Et bien sûr, dans d'autres villes de France. Voilà ce que je voulais vous dire à proximité de ce 1er mai. Et je vous dis à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier. À retrouver en podcast sur cfmradio.fr. Rubrique CFM Kélus.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, ben,
ah ben si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour. Oh.